Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Info Club Sandwich, votre émission d'actu locale amiennoise qui passe sur 87.7 FM et sur le DAB+. Aujourd'hui, nous sommes allés au plein cœur de la métropole amiennoise, au sein du musée de Picardie qui ne cesse de faire parler de lui depuis l'emblématique retour de la star du musée, la momie, CJ Mengaou. Agathe Jacker-Schmidt-Séguin, la conservatrice du musée, a accepté de répondre à nos questions. Cette interview s'est portée sur le travail de restauration qui s'est déroulé pendant à peu près un an et sur toutes les techniques et les procédures enclenchées par le Centre de recherche et de restauration des musées de France.
Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'histoire de cette momie? Comment est-elle arrivée au musée de Picardie?
Alors elle est arrivée en 1839, en mai 1839. C'est la Société des antiquaires de Picardie qui, à ce moment-là, réunit des objets pour construire le futur musée de Picardie. On est 25 ans avant l'ouverture du musée de Picardie. Et on leur propose d'acheter une momie et ses coffres. Ils se disent que c'est un bel événement, que ce sera un bel objet pour leur futur musée. Et c'est comme ça qu'ils l'acquièrent. Et que depuis lors, elle n'a cessé d'être présentée, puisque à ce moment-là, elle est présentée à la bibliothèque, dans les premiers espaces du musée de Picardie, avant qu'il soit le musée de Picardie.
Alors, est-ce qu'on a réussi à identifier cette momie? Est-ce qu'on sait qui est la personne finalement? Parce que s'il faut le rappeler, c'est un humain qu'on a devant nous quand on voit cette momie.
Évidemment, une momie, c'est une personne momifiée, donc c'est une personne. Alors, cette personne est une femme qui s'appelle Secha Mengaou, qui est qualifiée de maîtresse de maison, ce qui est un titre commun en Égypte ancienne. C'est presque l'équivalent de madame, hein, si vous voulez. Donc Secha Mengaou, c'est une femme et d'après les analyses des médecins, elle aurait eu une trentaine d'années au moment de sa mort. C'était une femme qui avait des soins dentaires soignés. On pense même qu'elle s'est fait limer les dents pour qu'elle soit toute parfaitement droite. On a des traces de caries bien traitées. Et puis, cette femme, elle mesurait un petit 1,60 m. Et on ne sait pas vraiment de quoi elle est morte, mais elle a été enterrée il y a environ 2600 ans. Entre la 25e et la 26e dynastie, probablement dans la région de Thèbes, en Égypte.
Concrètement, comment font les chercheurs justement pour réussir à identifier cette personne, cette momie?
Alors, il y a plusieurs indices, c'est des faisceaux d'indices en fait. Il y a d'abord les cercueils. Les cercueils ils portent le nom de Secha Mengaou, maîtresse de maison, fille d'Orsa Isset et de Tahan Eten Pamer. C'est inscrit sur son cercueil extérieur. Après, la question, c'est est-ce que la momie est bien la momie des cercueils? Alors, je pense qu'on ne pourra jamais en être 100% sûr parce qu'elle n'a plus de bandelette ou elle n'a peut-être jamais eu de bandelette avec son nom inscrit dessus. Ce qui est certain, c'est que notre momie, c'est bien une femme, tout comme le nom qui est inscrit sur les cercueils, que les techniques de momification utilisées sont cohérentes avec la datation des cercueils, 25e, 26e dynastie, et que donc il n'y a pas de raison de penser que ce n'est pas la momie des cercueils.
Donc cette momie, c'est une personne, mais c'est aussi une source archéologique, une source historique. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou on a d'autres types de sources similaires dans le monde et où est-ce qu'on peut les trouver aussi ces momies finalement?
Alors ça, c'est plein de questions en chaîne, c'est-à-dire que notre momie, elle est exceptionnelle, déjà parce que c'est une personne et qu'on ne remplace pas une personne par une autre. Des momies, il y en a d'autres, en France et dans le monde. On estime qu'en France, il y a une quinzaine de momies visibles dans des musées français. Il y en a certainement plus dans les réserves. Parce qu'au XIXe siècle, c'était une vraie mode et que les collections des musées français se sont beaucoup constituées au milieu du XIXe siècle. Donc, la momie en soi, c'est un élément qui est plutôt la trace d'une mode. La mode de l'égyptomanie au XIXe siècle. Maintenant, aujourd'hui, on essaye d'en faire un objet, une pièce de science aussi, pour que sa présence ne soit pas qu'une curiosité, mais soit aussi une source d'information. Et ça a été l'objet de cette restauration, entre autres l'objet de cette restauration et des analyses qu'on a faites autour de la momie pour documenter les pratiques d'embaumement et mieux connaître la femme qu'est cette Secha Mengaou. Alors, les analyses qu'on a utilisées, c'est des analyses que le Centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles, c'est un service public de l'État, a mis à notre disposition. Ce n'est pas que pour des momies, c'est-à-dire qu'on fait le même type d'analyse pour d'autres types d'objets. Mais évidemment, là, les problématiques étaient cohérentes avec ce qu'on avait à étudier, une momie. On a étudié ainsi la matière noire qui recouvre son corps. On a passé au carbone 14 des éléments de ses bandelettes. On a aussi analysé ces bandelettes d'un point de vue matériel. Enfin, il y a toute une série d'analyses qui ont été faites, qui sont des analyses organiques, qu'on aurait pu faire sur d'autres objets organiques, en bois, mais pas avec cette problématique-là.
Et finalement, avec toutes ces analyses, après on parlera de la restauration, qu'est-ce qu'on a pu découvrir ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça a pu apporter à la connaissance finalement ?
Eh bien, déjà, les premiers éléments que ça apporte à la connaissance, c'est connaître les techniques de momification. Donc on sait maintenant que, par exemple, le corps a été enduit d'une résine de pinacée et que sur le visage, on a mis aussi de la cire d'abeille et qu'on lui a rendu l'aspect de la vie en ajoutant des yeux en pierre, plus précisément en calcite et en obsidienne, et une bouche en textile qui couvrait ses dents et qui lui redonnait véritablement l'aspect de la vie. Donc toutes ces analyses-là ont permis de préciser ce que parfois on devinait et parfois on ne voyait pas. Il y a aussi eu des analyses des composés organiques volatiles, donc c'est-à-dire tout ce qu'émet la momie, tout ce qu'elle sent. Alors aujourd'hui, on ne peut plus la sentir parce qu'elle est dans sa vitrine, mais sinon, elle sent quelque chose. Et ces analyses-là, elles nous ont permis de documenter la manière dont les produits qui ont été utilisés pour sa momification. Et donc, plus spécifiquement, on sait qu'on a utilisé toute une série de produits qui sont naturellement antibactériens, antifongiques, comme des huiles essentielles d'agrumes, du goudron de houille, des choses comme ça, des produits qui ont servi à masser le corps après qu'il avait passé son temps à dessécher dans le natron. Voilà, donc, c'est vraiment toute une série d'informations qui permettent que notre momie, en elle-même, elle ne soit pas juste un objet de curiosité, comme c'était le cas au XIXe siècle probablement, mais qu'elle s'inscrive dans un corpus d'œuvres, une analyse qui, à l'échelle internationale, documente une pratique, un savoir-faire, ceux de l'Égypte antique et de la momification.
Voilà, donc si j'ai bien compris, ça permet d'en apprendre plus sur la momie en tant que telle, mais sur toutes les pratiques aussi autour de l'embaumement, etc.
Exactement.
Alors, donc, autour de ces analyses, en fait, on va dire que les analyses ont été faites parce qu'il y avait ce processus de restauration qui était en cours.
Bien sûr.
J'imagine que ça aurait été bête de sortir la momie de sa présentation pour ne pas l'analyser. Oui. Qu'est-ce qui a justifié cette restauration, finalement ?
Alors, première justification de la restauration, c'est que l'état de présentation de la momie actuellement était tout à fait insatisfaisant. Elle était très encrassée, avec beaucoup d'éléments exogènes, des bouts de verre, de la poussière partout. Et qu'on ne peut pas se satisfaire de présenter... C'est pas simple de présenter un corps humain. Alors, si on le présente, on le présente le mieux possible, avec le plus de dignité possible. Et là, ce n'était pas assez digne. Par ailleurs, ces cercueils étaient en mauvais état. Le bois avait bougé et le décor était en péril. Donc la structure, comme la surface des cercueils, était en danger. Donc il fallait traiter le tout. Et si nous sommes allés au Centre de recherche et de restauration des musées de France à Versailles, service public de l'État, c'est gratuit, et c'est mis à disposition des musées de France, eh bien, c'est parce qu'on avait une problématique globale, c'est-à-dire des objets qui posaient des problèmes et des problématiques d'analyse cohérentes avec ce qu'ils sont capables de faire là-bas. Donc tout allait ensemble, et ces analyses, elles sont très vastes. Elles vont de la photographie scientifique, UV, infrarouge, tout, radio, jusqu'aux analyses de prélèvement, carbone 14, analyse de matière organique, des pigments, et donc des analyses à la fois sur la momie et sur ses cercueils. Tout a été analysé en bloc comme un ensemble cohérent, pour mieux le documenter, pour les siècles à venir.
Et donc c'est à ces analyses, c'est adjoint, j'imagine, un dépoussiérage, finalement un nettoyage de la momie et de ses cercueils.
Bien sûr, c'est-à-dire que tout va ensemble. On n'analyse pas juste pour analyser. Tant qu'à restaurer, on va jusqu'au bout et on fait aussi des analyses puisqu'on était au C2RMF. Donc oui, il y a eu pour la momie un dépoussiérage, un décrassage des textiles. On a enlevé tous ces éléments exogènes. On a, et ça c'était très important et très complexe, sorti la momie de sa boîte du 19e siècle. Une boîte en bois qu'il a lancérée depuis 150 ans au moins. Et ça, il a fallu la sortir. C'était une vraie extraction complexe. Donc on a sorti la momie de sa boîte, on lui a refait un nouveau matelas à mémoire de forme, si vous voulez. On a consolidé les parties à minima, les parties qui devaient l'être. On consolide plutôt par l'extérieur. Par exemple, on a mis des étriers pour tenir les pieds, parce qu'ils sont trop fragiles pour tenir tout seuls. On ne met pas trop de collage à l'intérieur, on ne touche pas trop au corps humain. C'est un petit peu différent pour les cercueils, même si la déontologie est très stricte elle aussi. Hein, il faut qu'il y ait une réversibilité, une durabilité, une lisibilité et que tout soit documenté. C'est-à-dire qu'on ne refait pas à neuf. Mais pour les cercueils, on a enlevé les clous qui posaient problème, passivé les clous qui risquaient de rouiller. On a consolidé évidemment le bois lui-même des cercueils. On a consolidé le décor et on a nettoyé le décor, toute la partie polychrome. On a, en faisant bien attention, grâce aux analyses, de ne pas enlever les vernis antiques. Parce que ça peut être vite fait. En tout cas, ça a été fait par le passé.
Alors justement, ce que vous me dites, ça me permet de poser une question sur le travail, on va dire, et sur qui prend les décisions. Finalement, qui va choisir d'apporter telle modification au cercueil ou telle éléments de restauration. Qui va dire, ok, c'est bon, là on peut enlever un clou, on peut le remplacer, c'est ok.
C'est un travail commun. Pour cette restauration, c'est pas le cas à chaque fois parce qu'elles sont pas toutes aussi complexes, mais on avait un comité scientifique. Il y avait moi-même, le conservateur des collections, il y avait un conservateur du Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est aussi égyptologue, et on avait deux collègues du Louvre, des égyptologues aussi, plus le savoir-faire des restaurateurs qui, eux, sont force de proposition et nous présentent les hypothèses, les avantages, les inconvénients, et après on choisit collégialement. Personne ne prend la décision seule. Il y a des décisions qui s'imposent. Et il y en a d'autres sur lesquelles on peut discuter. Par exemple, je vous donne un exemple concret, la cuve externe de la momie, c'est-à-dire le couvercle, la cuve de l'enveloppe externe de la momie en bois. Pendant 150 ans, elle a été présentée à hauteur de main, et les gens l'ont touchée parce que la momie était dedans. En vérité, on s'en est rendu compte avec des photos anciennes, parce qu'on a aussi fait des recherches en archives en parallèle. Donc, pendant 150 ans, cette cuve externe a été touchée par les gens. Elle est devenue noire, très encrassée. On a fait des analyses pour être sûr que le noir, c'était bien de l'encrassement moderne. Une fois que ces analyses ont été faites, on a décidé, avec le comité scientifique et les tests de nettoyage des restaurateurs, d'enlever tout ce noir. Ainsi, la cuve qui avant avait une bordure entièrement noire est aujourd'hui entièrement couleur bois. On pouvait enlever ça parce que c'était un élément d'une histoire trop récente pour qu'elle nécessite d'être conservée. Mais on aurait pu faire différemment en estimant que tout ça, c'était des éléments de l'histoire de l'objet et que donc on ne touchait à rien. C'est vraiment des choix scientifiques éclairés qui doivent se faire en groupe.
Donc là, finalement, vous avez fait le choix scientifique de se rapprocher au plus proche de la source telle qu'elle était au moment de son abonnement, finalement.
En tout cas, d'enlever ce qui n'était pas un élément d'interprétation antique. Qui ne rajoutait rien à la compréhension de l'objet tel qu'il pouvait être effectivement dans l'Antiquité.
Très bien. Et justement, peut-être pour expliquer à nos auditeurs, vous, quel est votre rôle en tant que conservatrice dans ce processus finalement ? Quel va être votre rôle dans tout ce processus ?
Alors déjà, le rôle premier, c'est que c'est moi qui choisis cette problématique. C'est moi qui dis, cette momie, elle souffre, il va falloir la faire restaurer. Donc tout le processus part de là. C'est moi qui constitue le comité scientifique et qui sollicite le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et avec mes collègues qui s'occupent des marchés publics, qui recrutent une équipe de restaurateurs. Après que moi, avec mes collègues du Centre de recherche des musées de France, nous ayons rédigé un cahier des charges expliquant ce que nous voulions faire. Quels étaient les enjeux, quelles étaient les limites, tout ce qu'on peut savoir au moment où on prépare la restauration. Donc moi, déjà, ma tâche, elle est première, c'est de choisir qu'on va le faire. Qui va le faire et avec qui on va faire ça, avec qui on va être accompagné. Ensuite, tout au long de la restauration, j'ai suivi cette restauration. Je suis allée voir la momie parce qu'elle était à Versailles. Donc pendant une bonne année, je suis allée la voir plusieurs fois à Versailles pour des réunions avec les restaurateurs, avec le comité scientifique, pour faire ses choix, pour déjà comprendre ce que les restaurateurs avaient pu conclure de leurs études, de leurs analyses, et ensuite faire des choix de restauration éclairés par leurs analyses.
Alors est-ce que finalement ça fait partie de votre quotidien ou là vous êtes vraiment sur un travail très particulier qui vous a demandé plus d'énergie que d'habitude, plus de travail ?
C'est un peu entre les deux. Alors déjà cette restauration, elle se clôture par une exposition. Et toutes les restaurations ne se clôturent
après,
pas
oui,
par
sûr.
Une exposition. Donc déjà il y a ce surcroît de travail lié à l'exposition qui n'est pas que mon travail, qui est toute l'équipe du musée de Picardie y a travaillé. Hein. Mais bon, faire restaurer des objets, c'est dans mes missions. Des missions des conservateurs de musées, dans tous les cas. C'est pas une action exceptionnelle. En revanche, faire restaurer un objet qui a une telle importance que la momie du musée de Picardie, oui, évidemment, ça, c'est un petit peu exceptionnel. Il y a une pression particulière, il y a des enjeux plus forts.
Donc, a priori, la mission est réussie. Elle est restée à peu près un an à Versailles, je crois. La momie, là, elle est de retour à Amiens. Donc, c'est un peu le même principe que sortir la momie du musée. Ce serait bête de ne pas l'analyser, de ne pas la restaurer. J'imagine que là, à son retour, vous avez préparé une nouvelle façon de la mettre, on va dire, en scène, de la présenter. Qu'est-ce qui a été travaillé sur cette sur cette nouvelle présentation de la momie, sur cette exposition ?
Alors l'enjeu, c'était de voir mieux la momie, mieux physiquement, c'est-à-dire de pouvoir mieux l'appréhender, mais mieux qualitativement surtout. Jusque-là, pour ceux qui avaient l'habitude de la voir ou qui s'en souviennent, elle était donc dans sa boîte du 19e siècle, que les gens prenaient parfois, et on le comprend, hein, pour un objet antique, ce qui, en tant que conservateur, me posait un problème. Que les gens ne comprennent pas immédiatement ce qui est antique, ce qui est moderne, il faut faire quelque chose. Bon, déjà, il fallait la sortir de cette boîte. Il fallait aussi la présenter de manière à ce qu'elle ne soit plus un objet de curiosité, mais d'abord le témoin d'un savoir-faire, d'une croyance, ceux de l'Égypte antique. C'est comme ça qu'on a développé avec mon collègue, le chef de l'équipe technique, en interne, un mobilier à base de montants de bois et de verre et de miroirs pour garder toute la transparence et qu'on puisse voir tous les détails d'une momie replacée au centre de ces deux cercueils. La momie, elle était enserrée dans un premier cercueil interne, cuve, couvercle, le tout enfermé dans un deuxième cercueil externe, cuve, couvercle. Eh bien, cette succession des étapes, cuve, cuve, momie, couvercle, couvercle, ça, on l'a recréé comme si on avait un peu éclaté l'ensemble, si vous voulez, dans un mobilier en verre et en miroir.
Donc finalement, cette nouvelle exposition, c'est aussi, on va dire, changer un petit peu notre cursus, notre regard. On est passé d'un côté, on va dire, plus... plus cabinet de curiosité, un côté, on va dire, qui tend vers la véracité scientifique, finalement.
C'est ça, on a voulu quitter la curiosité pour aller vers plus d'histoire de l'art, plus de civilisation, et avoir un propos plus construit. C'est aussi pour ça que cette exposition, elle est accompagnée par des planches de BD qui expliquent toutes les analyses, toutes les questions, toutes les découvertes que nous avons faites, pour que les gens qui veulent en savoir plus aient à disposition et facilement tout ce processus qui a été le nôtre pendant un an.
Et finalement, ce côté cabinet de curiosité, c'est un héritage qu'on avait gardé du 19e siècle et de tout cet engouement autour des musées à cette époque ?
Oui, oui, effectivement. C'est-à-dire que la momie, et ça, je pense qu'elle ne pourra jamais s'en défaire complètement, elle est entrée là parce qu'il y avait une mode de l'Égypte, une égyptomanie. Et d'une certaine manière, je ne suis même pas sûre qu'on soit sorti de l'égyptomanie. Mais aujourd'hui, on a su y mettre une dimension scientifique beaucoup plus forte. Et c'est vrai que... Il était important de rendre justice à cette avancée de la science et aujourd'hui de ne pas se satisfaire d'une présentation qui était vieillissante.
Merci encore de nous avoir reçus. Pour rappel, nous étions avec Agathe Jacker-Schmidt-Séguin, conservatrice au musée de Picardie à Amiens, qui nous a parlé du retour de la momie Sejay Mengaou, qui a fait son grand retour au travers de l'exposition « Le retour de la momie et des cercueils ». Cette exposition sera toujours disponible pendant plusieurs mois aux horaires du musée de 9h30 à 19h et au prix de 5 à 9 euros pour les adultes. De plus, de nombreux événements sont encore à prévoir, notamment le rendez-vous avec les restaurateurs prévu pour printemps 2023. Ce sera l'occasion d'avoir de nouvelles infos. C'est la fin d'Info Club Sandwich, merci de nous avoir écoutés. On se revoit demain à midi. À bientôt.